Salut, c'est Matmas de là-bas qu'enregistrait. J'entends ce matin parler sur France Inter, pompes funèbres et TVA. Alors, s'il y a une taxe sur la valeur ajoutée d'un mort, je comprends mieux que la vie soit si chère. Salut.
Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps.
Oui, il y a 25 ans, Georges Brassens disparaissait. Que restera-t-il dans 25 ans des talibans ?
Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens.
Je m'appelle Daniel, j'habite à Marseille. Voilà, j'ai écouté les informations tout à l'heure et je suis très impressionnée parce que j'ai l'impression que le gouvernement se trompe de complètement de combat. Ils vont réunir des ministres, des machins par rapport à ce qui s'est... Moi, j'étais très bouleversée par ce qui s'était passé à Marseille. Pourtant, j'habite dans le quartier sud. Mais je suis éducatrice et je comprends pas qu'on réunisse des gens, des ministres et tout, et qu'on ne laisse pas la parole aux gens qui sont vraiment concernés, à savoir ceux qui sont dans la misère, dans la précarité, et que ces gens-là, ils ont des choses à dire, ils ont fait un cahier de doléances, et ils sont pas entendus. Excusez-moi, je suis très émue parce que vraiment, je suis hors de moi de voir tout ce qui se passe. Ça me met hors de moi, et je ne sais pas où on va. Voilà. Merci. Au revoir.
Ouais, j'en ai marre d'entendre là la nana qui s'est fait brûler à Marseille, là, d'origine sénégalaise. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? C'est une femme qui s'est fait brûler et on nous précise d'origine sénégalaise. Pourquoi? C'est pour bien préciser que c'est pas une Française qui s'est fait brûler? Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. On nous aurait mis d'origine française, si ça avait été le cas. Voilà, j'entends ça sur France Inter depuis hier, et depuis hier dimanche. Et franchement, ça m'énerve, quoi. C'est une femme qui s'est fait brûler, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rajouter d'origine sénégalaise. Voilà, c'est triste pour elle, et franchement... Enfin, voilà, quoi, je comprends pas du tout. Je suis un peu atterrée par certaines formules journalistiques... Voilà, c'était Pauline Leverdin. Ciao.
Bonjour Daniel et tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. En ce moment, des événements graves se déroulent dans l'état de Oaxaca au Mexique, dans la totale indifférence médiatique. Depuis plus de 10 ans, les enseignants de l'état de Oaxaca se battent pour le retour à une justice sociale et tentent de faire valoir leurs droits face à un gouvernement de plus en plus répressif et corrompu. Ce week-end, le président Vicente Fox a ordonné l'envoi de troupes militaires armées à Oaxaca pour garantir, selon lui, la sécurité de la population et restaurer ainsi l'ordre et la paix. Plus de 5000 soldats sont sur place. Il y a déjà eu 13 morts et de nombreux blessés parmi la population. Beaucoup de personnes ont été emprisonnées, enlevées ou sont portées disparues. Un appel international a été lancé pour des mobilisations pacifiques devant les ambassades et consulats mexicains aujourd'hui lundi 30 octobre à 18h. Il y a urgence. Ils ont besoin de notre aide. Alors rendez-vous nombreux devant les ambassades et consulats mexicains aujourd'hui lundi 30 octobre à 18h. Merci de votre soutien. Nous continuerons à vous informer de la suite des événements.
Oui, bonjour Daniel Mermet, c'est Emmanuel de Toulouse. J'ai découvert votre émission un petit peu avant l'été, avant sa remise en question, et j'ai voulu savoir ce que j'avais loupé depuis le début, donc j'ai passé une partie de l'été à écouter les archives sur le site internet, avec des émissions en effet très très intéressantes, mais aussi loin que je remonte dans le temps, je ne vois... aucune émission consacrée au cul, à la baise. Si on accepte le reportage qu'il y a eu l'autre jour sur ce restaurateur un petit peu graveleux sur les bords, quand même, il faut le dire, de Limoges, je pense que le sujet est quand même beaucoup trop important pour qu'on le laisse entre les seules mains de Brigitte Lahaye sur RMC Info. Donc il serait sûrement d'utilité publique de consacrer une voire plusieurs émissions au cul, donc peut-être en invitant un Loïc Vacant de la Bèze sur le plateau, ou envoyer votre charmante Pascal sur le terrain pour demander aux gens comment ils baisent, quelle est leur vie sexuelle, parce que je pense que le sujet mérite d'être d'explorer en profondeur, un petit peu comme l'avait fait Pasolini pour la télévision italienne dans les années 60. Voilà.
Un genre d'introspection des caleçons, si je comprends ce que souhaite cet auditeur. On ne veut pas dire que la Basse Jujifi n'a pas consacré quand même quelques émissions au cours de ces années au sexe et au cul, comme vous dites si bien. Si vous cherchez bien sur le site labas.org, vous allez trouver un certain nombre d'émissions érotiques, de poésie, et toute une série qu'on a appelée les Sexplorateurs, série dans laquelle a excellé notre Anne Rioux, et vous verrez qu'on n'a pas trop molli sur ce domaine, je pense pas du moins qu'on puisse nous reprocher grand chose, sauf le CSA. Là-bas, si j'y suis, vous le saviez peut-être pas, c'est pas très important, mais enfin, c'est quand même pas indifférent, a fait l'objet d'un blâme du CSA, justement, pour avoir été un peu trop loin dans ce domaine. Donc, mais bon, on tient compte, évidemment, de ce que vous nous dites, comme de tout ce que nous disent nos AMG, nos auditeurs modestes et géniaux. Les petits bruits que vous entendez derrière moi, croyez pas que je sois en direct depuis un salon de coiffure. Mais quand même, c'est un bruit très très important, très très important pour un pays entier qui est l'Afghanistan. Parce que ce bruit de ciseaux, il y a 5 ans, c'était le bruit du ciseau qui coupait les barbes avant de pouvoir les raser complètement. Et pourquoi l'on coupait les barbes il y a 5 ans? Bien parce que c'était la chute du régime taliban qui faisait aux hommes obligation de porter la barbe. Il y a 5 ans, vous en souvenez, pour les plus fidèles d'entre vous, nous étions en Afghanistan au moment de l'offensive américaine, l'offensive de la coalition Enduring Freedom sur ce pays, à peine 4 semaines après les attentats dits du 11 septembre. Et nous avions fait un long voyage dans le nord-est de l'Afghanistan en guerre. Nous avions intitulé cette série un carnet de route dans le nord-est de l'Afghanistan en guerre, et nous étions arrivés jusque à quelques kilomètres au nord de Kaboul. On ne pouvait pas aller plus loin puisqu'il y avait à ce moment-là la ligne de front. Et puis quelques temps plus tard, le 13 novembre 2001, c'était la chute de Kaboul, la chute des talibans, et donc le triomphe de la démocratie. On va voir 5 ans plus tard, puisque c'est le voyage qui commence aujourd'hui, de quoi le bilan, qu'est-ce qui s'est passé depuis, et où en est l'Afghanistan aujourd'hui. C'est un retour en Afghanistan, illusion perdue, occasion manquée. C'est après ces messages que voici, que nous avons choisis, cueillis, parmi ceux que vous avez déposés dans la boîte vocale de la Basse Jujifi au 01 56 40 37 37.
C'est Christine de Nîmes. Bonjour à l'équipe de la Basse Jujifi. Je vous appelle parce que les repères nîmois changent de lieu. À partir de novembre, nous irons au Petit Subito, 5 rue Jean-Reboul, donc à Nîmes. Ce sera tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, à partir de 19h23. Les responsables du lieu sont Henri et Doumé, qui nous accueilleront donc. Et on va commencer dès ce premier mercredi de novembre, qui sera le 1er novembre. J'espère qu'on ne va pas perdre nos AMG en route et que tous pourront arriver jusqu'au Petit Subito. À bientôt.
auditeurs modestes et géniaux du nord de Sèvres, bonjour. Exceptionnellement, le repère des amis de la Basse et J'y suis à Clazé n'aura pas lieu le premier vendredi de novembre, mais le deuxième vendredi, c'est-à-dire non pas vendredi 3, mais on se retrouve vendredi 10 novembre chez Léa, toujours à Clazé, près de Bressuire, et à 19h, eh bien on a pensé qu'on parlerait des médias et éventuellement de leur indépendance. Et le journaliste Éric Berbudeau de La Nouvelle République viendra nous aider à y réfléchir. Merci.
Bonjour tout le monde, c'est Noël de Autun. Je vous appelle pour vous dire que la prochaine réunion du Café Repère est chez Mina au Point Bar à 18h30 le jeudi 2, comme tous les premiers jeudis du mois. Nous parlerons cette fois-ci des moyens de lutter contre le système, comment on peut faire pour dire non et être entendu. Voilà, merci, à bientôt.
Les amis du Repère de Limoges ont décidé de ne rien changer à leurs habitudes et de ne pas se plier aux aléas du calendrier. Ils se réuniront donc le jour de Toussaint, mercredi 1er novembre, à partir de 18h30, toujours au Woodstock Boogie Bar, avenue Montjovi. Serge nous parlera du polar, sa spécialité, et chacun est invité à apporter le livre qu'il aime par-dessus tout pour faire partager ce plaisir à tout le monde. Et pour ne pas se laisser contaminer par la sinistrose ambiante, il est conseillé de laisser de côté les pavés sérieux et de glisser vers le léger, l'audacieux, pour un débauchage d'oreilles salutaire.
Le sport sur France Télévisions, tout le sport, 20h10 ce soir, Céline Géraud, c'est sur France 3. Je vous rappelle la principale information survenue pendant ce stade 2. La riposte américaine a débuté en Afghanistan avec des explosions entendues à la fois à Kaboul et sur l'aéroport de Kandahar. Le président américain George Bush a confirmé la riposte américaine. Bonsoir, merci.
Afghanistan. Ravaged by 20 years of war, and now the focus of international attention.
I want to tell you that liberation and freedom is not something that another country gave us, and donation for us, and give us. If one day give us another day, they will take it back.
Parce que je veux qu'ils sachent que la liberté n'est pas un cadeau qui nous est fait dans un pays. Ça ne doit pas être un cadeau qui nous est fait des pays étrangers, parce que s'ils nous l'offrent, ils peuvent la reprendre un jour.
The brutal rule of the Taliban.
No, that's not possible. The Taliban will vanish in Afghanistan.
Non, c'est impossible de faire disparaître les talibans d'Afghanistan.
C'est quoi ça?
C'est du pavot.
One woman risked everything to reveal shocking images of everyday life inside the country.
Ah, qui est-ce qu'il cultive ici le pavot?
Oui, tout le monde il cultive parce qu'on a besoin. On a besoin.
Afghanistan. Beneath the Veil, Sunday on CNN.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil. Un retour en Afghanistan.
Flight number 2, arriving from New York.
On vient de franchir la frontière. Comme dit le gars qui est à côté de moi, qui est un Afghan, qui fait partie d'une délégation. Enfin, on est en Afghanistan. C'est un moment d'émotion parce que les frappes américaines, alliées, disons, ont commencé cette nuit. On sera probablement un des derniers vols venant du Tadjikistan, venant de Douchanbé. Et évidemment, on a après 6 jours d'attente et de galère, enfin nous sommes en Afghanistan. On est dans un hélicoptère de transport de troupes qui date de l'Union soviétique. Ça tremble et ça vibre de tous les côtés. Là, on a vraiment l'impression que le cerveau va se décoller du crâne. Et on traverse des régions de rivières. L'hélicoptère est très très bas,
parce qu'on n'est pas très très loin de la ligne de front. Et il faut faire attention à des tirs possibles venant du côté des talibans. Là, on est en train de se poser. Voilà, ça y est, on est posé. On se pose. On est en Afghanistan.
Et commençait pour nous la découverte d'un pays ou d'une partie d'un pays, même une petite partie d'un pays si on regarde la carte de l'Afghanistan. C'était seulement le nord-est de l'Afghanistan, le Badakhshan et le Panjshir que nous allions découvrir, mais on n'a pas oublié. C'est un d'abord l'Afghanistan, ça peut paraître surprenant de commencer comme ça, mais c'est d'abord un pays magnifique, superbe. Et on a rapidement compris tous ceux qui, avant nous, des Français notamment, étaient tombés amoureux de ce pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, nous revenons en Afghanistan, nous revenons sur nos pas, mais pas seulement sur nos pas, on va aller dans des zones et des villes et des endroits où alors on ne pouvait pas aller parce que il y avait une ligne de front qui nous en séparait. Je le disais, vous vous en souvenez, en novembre 2001, c'était la chute des talibans, les horribles et très méchants talibans. C'était la libération et on revivait cette scène qu'on semble toujours vouloir revivre. Un peu comme des, vous savez, ces alcooliques qui promettent de ne plus boire et qui retombent dans leur vice favori. Je veux parler de l'illusion de la libération. C'est vrai qu'elle était belle, la libération. J'évoque bien sûr la libération, celle de notre pays avec ses troupes américaines qui débarquent absolument superbes et qui, dans leurs navires, dans leurs avions, dans leurs armes, amènent la libération, le retour de la démocratie, de la lumière et de la liberté. Et cette image, eh bien, on veut toujours la rejouer, toujours la revivre, toujours la recommencer. Sauf que si la première fois c'était une fête, les fois suivantes, je pense par exemple au Kosovo, ça tourne très souvent à la farce, pour ne pas dire à l'imposture. Et la libération, eh bien, de Kaboul devait être la même chose. Les bons Américains, nous étions des Américains, vous vous souvenez, nous étions tous Américains à l'époque. Oui, il y a 5 ans, le journal Le Monde, le quotidien Le Monde disait « Nous sommes tous des Américains ». Nous étions donc tous des Américains et ces bombardements sur l'Afghanistan pour en chasser non seulement les talibans, mais Oussama Ben Laden qui était protégé et caché par ces talibans, eh bien nous allions libérer les Afghans de leurs tourments. Et dans les bombardiers, eh bien il y avait la démocratie. On allait apporter la démocratie, on allait apporter des efforts financiers évidemment, pour reconstruire, pour permettre à ce pays de se reconstruire après ces décennies, après 25 ans de guerre qui en avaient fait l'un des pays les plus pauvres, les plus exsangues et les plus hébétés. Sans doute du monde. Mais la jeune femme que vous venez d'entendre, qu'on retrouvera au cours de cette série de reportages, Malala Joya, dit « La liberté n'est pas un cadeau qui est acceptable quand il est fait par un autre pays, parce que quand un autre pays vous donne la liberté, il peut la reprendre. Et donc la liberté, l'émancipation ne peut venir que de nous-mêmes. » 5 ans après, est-ce que l'aide internationale a permis aux Afghans de construire leur État ? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Le bilan est loin d'être encourageant et loin d'être positif. Je crois qu'effectivement, nous avons rencontré des illusions perdues et sans doute qu'une grande occasion a été manquée. Pourtant, en mars 2004, on pouvait entendre un homme très important, très puissant sur cette planète dire ceci lors de la conférence des pays donateurs. Jamais plus les tyrans et les terroristes ne dirigeront l'Afghanistan et jamais plus ce pays ne sera un foyer d'instabilité. L'homme qui parlait ainsi s'appelle Colin Powell. C'était en mars 2004, alors que déjà les talibans étaient de retour et passaient de la guérilla à la rébellion qui s'étendait au sud du pays. Il parlait ainsi alors que le trafic de l'opium se développait comme jamais en Afghanistan, alors que la corruption et les détournements de l'aide étaient systématiques, alors que les seigneurs de guerre renforçaient leur pouvoir. Colin Powell croyait-il ce qu'il disait ? Pensait-il que quelqu'un croyait ce qu'il disait ? En tous les cas, sans doute pas les Afghans eux-mêmes. Nous retournons dans ce pays pour essayer de comprendre, de le comprendre, de vous faire comprendre ce que nous avons compris. C'est une histoire compliquée, beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Et pour l'instant, on va revenir sur ces impressions que nous avions à l'époque et à commencer, parce qu'il n'était pas les impressions, mais par le journaliste. Il y avait tant de journalistes il y a 5 ans que quelqu'un avait trouvé cette formule d'un journaliste. Aujourd'hui, 5 ans après, avec l'ami Essan et Guy Van Til, le journaliste est bien loin et on est revenu sur nos pas et sur les lieux où les médias s'échinaient, s'excitaient pour mettre en scène, accompagner, se faire écho de cette fabuleuse mise en scène. C'est jusqu'à 16h et c'est là-bas si j'y suis, un retour en Afghanistan.
Good evening, I'm Bill Crowley. These are some of the top stories coming up on WCBS 880. The American-led air attacks in Afghanistan are over for the night. Planes also dropped food and medical supplies in Afghanistan. President Bush said the U.S. will not falter in the war against terrorism. Yanks beat Tampa Bay, Mets lost to Montreal. The Rangers and Buffalo tied in the third.
America fights back. Count on the global resources of CBS News for continuing coverage right here on WCBS New York at Infinity Broadcasting Station.
WCBS News time, 10 o'clock.
20h de Pujadas, la riflette, aux 20h de Pujadas, la riflette, on s'en lasse pas, la riflette, on s'en lasse pas, sur Kaboul ça tombera. La riflette, sur Kaboul ça tombera. Tomahawk et Katusha, Tomahawk et Katusha.
Octobre 2001.
Panchir, on se déchire. La riflette, Panchir, on se déchire. Au thé noir et au kéfir, au thé noir et au kéfir. Quand ça chie à Charicard, la riflette, quand ça chie à Charicard, ça fait tourner les pétards, ça fait tourner les pétards. À Bagram, y'a Babajam, la riflette, à Bagram, y'a Babajam. Celui qui a pas perdu un gramme, celui qui a pas perdu un gramme.
Pour la diff, faut des accus,
la riflette, pour la diff, faut des accus. Si t'as pas du là dans le cul, si t'as pas du là dans le cul. Ouais.
France Info, RFI, France 2. Culture aussi, France.
Mais c'est une idée de Mathias Segond.
France 3 aussi, France 2.
Les ambassadeurs de la culture française en Afghanistan. C'est ça.
Good morning, everyone. 11 a.m. in the east, 8 o'clock in the west, and welcome to MSNBC's continuing coverage of America Strikes Back. I'm John Siegenthaler, and here are some of the latest headlines.
C'est ATN, ça?
ATN.
ATN.
qui fait son direct. Le gars, il a mis son gilet pare-balles parce que c'est obligé pour les assurances.
I'm Mike Taibbi in Islamabad. In his first interview of any sort since September 11th, Osama bin Laden says that he has nukes. We'll have that story.
Mais lui, il n'est pas Sky News. Sky News, ils doivent avoir le casque aussi.
Et il est en train de répéter.
Il dit qu'il est en première ligne.
Mais il est en première ligne avec son gilet pare-balles.
I'm Ashley Banfield at the United Nations in New York. As President Bush addresses member nations from around the world, he is clear with his message. You could be next. The story coming up.
We have now no choice, so we will act, and our determination in acting is total. We will not let up or rest until our objectives are met in full.
Alors là, maintenant, notre confrère de la chaîne, on va dire anglaise, enregistre son papier pour ce soir, enfin son plan pour ce soir. Il a remis son gilet pare-balles. Il a toute la plaine magnifique derrière lui avec Kaboul, supposément dans le fond. Mais ça faisait quand même un petit peu vide. Alors on a demandé à deux combattants, à deux moudjahidines, de faire de la figuration dans le fond. Ils ont accepté très gentiment. Ils se sont mis de dos et ils sont accroupis. Et puis voilà, ils font la figuration gratuite, hein. C'est des gens généreux et désintéressés pour cette chaîne de télévision britannique.
Ce qui est marrant, c'est que les Mujahideen ne sont absolument pas dus, puisque le commandant est en train de dire à ses hommes, vous savez quoi, ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il est en direct de la première ligne, alors qu'on lui a dit il y a deux minutes qu'on était en deuxième ligne.
Ouais. C'est la vie. C'est les médias mensonges, ça s'appelle, les petits médias mensonges du grand média circus.
Voilà, c'était en octobre 2001, les petits médias mensonges du grand média Circus. C'est vrai que l'occasion était trop belle. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu des méchants aussi méchants que les talibans, et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas été aussi bons que nous l'étions à l'époque. En plus des bons victimes, puisque il y avait les attentats du 11 septembre qui ont fourni l'occasion, le prétexte, l'aubaine que l'on sait maintenant en Afghanistan comme en Irak, non loin de là. Cinq ans après, donc, on revient pour voir si quels ont été les progrès accomplis, quelles ont été les régressions, où en est un petit peu ce malheureux pays. Franchement, le bilan n'est pas brillant, même si à l'époque, dans les semaines qui ont suivi cette chute des talibans, les espoirs ont été immenses à travers le pays pour les Afghans réfugiés dans les pays voisins, en Iran, au Pakistan, et pour les Afghans aussi de la diaspora vivant qui en Allemagne ou aux États-Unis. Il y a eu un grand espoir né des promesses de reconstruction du pays, des aides financières qui ont été promises. Une partie a été effectivement attribuée, mais pas du tout à la hauteur de ce qui avait été promis. Et puis, sur quel plan, sur quel projet, sur quel programme précis, on évoquera ces questions. On évoquera aussi évidemment la présence des forces occidentales à travers la présence de la coalition américaine, d'une part, et d'autre part, les forces sous contrôle de l'OTAN face à un retour des talibans, déjà depuis un certain temps, mais qui maintenant, dans le sud du pays, sont organisés en rébellion, armés, on peut dire militaires, même si leur action se développe sous la forme de guérilla, avec la répression classique à laquelle les forces occidentales sont astreintes, assignées, c'est-à-dire c'est-à-dire la rébellion anti-guérilla, qui ne va pas évidemment sans les atrocités classiques dans ce cas-là. Mais on reviendra sur tous ces aspects militaires, de l'aide, du rôle des ONG, des seigneurs de guerre, etc., dans cette régression actuellement que connaît le pays, dans ce bond en arrière que connaît ce pays, après d'indéniables avancées, notamment en matière d'élections, en matière de quelques succès indéniables, qu'il ne faut pas du tout, évidemment, négliger. Mais là, pour l'instant, on retourne sur nos pas, on remonte vers le Panjshir, on franchit la ligne de front qui était infranchissable à l'époque, puisque entre l'Alliance du Nord et les talibans qui tenaient le nord de Kaboul, il y avait une ligne qui était infranchissable dans ces jours-là. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a une belle route qui conduit vers le nord. Et on va retrouver un des hauts lieux de ce journalistan à Jabel Sarraj, dans un site dont beaucoup de journalistes se souviennent, qui était en fait la maison, une des maisons de Massoud, et qui avait été investie par toutes les équipes de journalistes du monde entier.
C'est la maison de Massoud. Ça, c'est ces gardes qui sont là.
Est-ce qu'on peut visiter? Parce qu'on est venu il y a 5 ans ici, au moment de la libération de Kaboul. Il y avait beaucoup, beaucoup de journalistes.
Si vous voulez voir le jardin, vous pouvez, mais sinon, je n'ai pas les clés à l'intérieur.
Ah, mais on va regarder, on va voir le jardin.
À chaque fois.
Voilà. Oh, ben c'est joli comme tout, regarde aujourd'hui. C'est verdoyant, c'est bien rangé. Les gars, les gars font leur sieste. Là, il y a un magnifique jardin fleuri. C'est là que se tenaient les hardis journalistes de CNN, tu te souviens? Ils étaient là, mais mon vieux, ils étaient formidables.
Et sur le toit, il y avait l'antenne satellite, les grosses antennes satellites. Là,
Ah ouais, ouais. Sur le toit de la petite maison, là, c'est paisible. Il y a une tonnelle superbe. Des géraniums, des dahlias.
Et c'est beaucoup plus tranquille qu'à l'époque. Il réveille le garçon.
Il se repose. Voilà. Ça, c'était le plateau de télévision, ça. Ce petit espace-là.
Ou alors, il y avait sur le toit pour avoir la vue sur la plaine de Chamali, Kaboul, au fond.
C'est ça, le décor qu'il fallait absolument avoir, c'était là. Sur le toit, CNN, Fox, etc., faisaient leur direct, plus ou moins direct, depuis là-haut, avec une vue imprenable sur Kaboul.
Afghanistan, ravaged by 20 years of war. And now the focus of international attention. The brutal rule of the Taliban. Women stripped of all rights. A place where dissent can cost you your life. One woman risked everything to reveal shocking images of everyday life inside the country. Afghanistan, beneath the veil. Sunday on CNN.
Et c'est là qu'il y a eu cette histoire où il y a eu une entourloupe des forces de la coalition qui ont organisé des bombardements sur une colline avec des B-52, c'est quand même pas rien.
Pour montrer déjà la force de frappe des Américains et pour montrer qu'il y avait bien la guerre ici et que l'enlisement dont les journalistes parlaient n'était pas d'actualité. Il n'y avait pas d'enlisement.
Voilà. Ils ont fait un numéro de com en sortant leur plus gros bombardier. Ils ont bombardé une des montagnes ici.
Bien visible pour les journalistes d'ici.
Première loge, quoi.
Première loge. C'est une mise en scène complète. Et aujourd'hui, ça a repris son cours paisible. Paisible parce que c'est la maison de Massoud. Feu, le commandant Massoud. Et que l'endroit est devenu une sorte de mémorial un peu. Hein. Oui. Il y a des gardiens de son jardin qui fleurissent et entretiennent son jardin et qui sont en train de se reposer. On vient d'interrompre leur repos.
Tiens, viens voir, on va continuer le petit tour.
Et c'est là où il y avait... Derrière, là, il y avait une espèce de petit container où plusieurs journalistes avaient été logés. Ils avaient mis un petit panneau « Poubelle garage ».
Oui, il y avait des journalistes pour Jabal Sarraj. Moi, j'avais dormi dans cette pièce-là. Là.
Tu avais la place privilégiée, là.
Ouais, j'étais privilégié.
Ça C'est dingue comme c'est mort maintenant qu'il n'y a pas un chat.
Et c'est là, je me souviens, ici, il y avait tout un tas de taxis qui travaillaient. Ça circulait dans tous les sens, ça cavalait dans tous les sens, ça s'excitait dans tous les sens. Et je me souviens qu'il y avait une fille, une journaliste américaine ou australienne, je ne sais où, qui tenait absolument à être en chemisier avec un pantalon moulant au milieu de tous ces mecs qui étaient, mais ils avaient les yeux, c'est comme le loup de Tex Avery.
Des yeux turgescents.
Ça, c'est drôle parce qu'on est devant un centre de presse. Enfin, c'est là où résident tout un tas de journalistes du monde entier, dont des Français.
Octobre 2001.
Et puis en bas, il y a CNN. Le monde est divisé en deux. Hein. Il y a la maison de CNN, qui est l'ancienne maison de Massoud. Hein, c'est-à-dire que CNN s'est installé chez Massoud. C'est-à-dire qu'un symbole est en train de dévorer un autre symbole. Et puis là, c'est les autres, le reste du monde, c'est-à-dire tout un tas de journalistes qui sont serrés comme des sardines les uns sur les autres. Enfin, c'est infernal parce qu'ils doivent envoyer des papiers, des images, des sons. Et puis, il y a des chocs de culture assez formidables. Et là, on vient d'assister à une scène très drôle. C'est une fille, une américaine, une journaliste américaine, qui n'a rien compris ou bien qui emmerde vraiment le monde et qui est là avec, c'est une jolie fille, hein, avec un pantalon moulant, qui laisse rien ignorer de son anatomie, des cheveux, des faits très beaux, etc. Et tous les gars qui sont autour de nous, qui sont des chauffeurs de taxi, qui se tiennent devant les portes de ces deux maisons, en espérant prendre quelqu'un, étaient en train de mater cette fille, mais le mot dévorer des yeux, c'est dévoré, quoi. Cette fille se rend plus compte, mais il reste plus que le trognon, quoi. Ils ont tout bouffé des yeux, il reste plus que les pépins. Et encore. Bon, on va leur demander un peu comment vous la trouvez, cette fille.
Elle était belle.
Toi, comment tu la trouves?
Trop basse.
Trop basse. Vachement bien.
Bien? Mais qu'est-ce qu'elle a de bien?
Ah, si, je crois que c'est un. Ah, si, non, je crois que oui.
Elle avait des beaux seins. Ah.
Ils sont une vingtaine et à éclater de rire parce qu'ils ont vu les seins de la fille. Pas les seins, ils n'ont rien vu du tout. Ils ont vu, ils ont deviné ses formes sous son corsage. Mais elle est brune. Vous préférez les blondes ou les brunes?
N'importe laquelle, je brûle.
Mais il y a des belles filles ici aussi.
On n'a pas le droit de les regarder seulement.
On n'a pas le droit de les regarder.
On n'a pas d'argent pour se marier. On n'a même pas le droit de les regarder.
Est-ce que vous allez demander à vos femmes de changer?
Non, ça, c'est pas possible.
Il
a l'air de dire que c'est bien dommage. C'est marrant de repasser derrière l'actualité, après.
Ouais, parce que c'est une telle fièvre, un tel délire, une telle folie. On se dit, est-ce qu'on pourra avoir un bout de carrelage pour dormir? Non, parce qu'il y a telle équipe qui l'a déjà pris. Alors, on va se mettre ici, on va se mettre là. Est-ce que t'as une prise de courant? Non, j'ai plus de batterie. Mon truc est en panne. C'est une espèce de fièvre exacerbée, hystérique.
Puis en plus, c'était là où il fallait être, quoi.
Oui, plus, oui. Voilà, ça a repris ça. Cette tranquillité paisible.
Il y a une vie après l'actualité.
D'autant plus que c'est le début de l'après-midi et qu'on est en plein Ramadan. Et que en début d'après-midi, quand on est en plein Ramadan, cette ville de Jabal Sarraj fait la sieste comme toutes les autres villes d'Afghanistan. Donc la tranquillité est d'autant plus le contraste est d'autant plus fort avec ces années que nous évoquons où il y avait une fièvre, une folie furieuse et une hâte. Des médias, des journalistes à obtenir absolument de gré ou de force des événements. Il fallait créer des événements coûte que coûte, quitte à payer des artilleurs pour faire des opérations, il faut absolument tous les jours alimenter le monstre médiatique. C'était ainsi, et aujourd'hui donc le calme est revenu.
Vous vous souvenez de l'époque où il y avait beaucoup, beaucoup de journalistes ici ?
Moi, j'avais une voiture, j'avais loué ma voiture 100 dollars par jour, et c'est Robin et Sergei qui louaient ma voiture.
Ruby, une américaine ?
Oui, c'était une américaine.
Ou Russie, Sergei, Russie.
Sergei, un russe ? Vous étiez le chauffeur de Sergei et Rubin ?
Chauffeur.
Pour 100 dollars par jour. C'est bien ça ? Hein ? Mais ça n'a pas duré longtemps.
Mais 2 mois, c'est mon bout de basse.
Ouais, 2 mois, 3 mois, pas plus, non.
Seulement.
Et après, ils sont allés à Kaboul.
Après la chute de Kaboul, ils sont tous partis à Kaboul et on était avec eux.
Vous pouvez bouger. Merci beaucoup.
On s'est fait marcher dessus.
On s'est fait marcher dessus pour des photos.
On n'est plus devant une photo. Alors. Maintenant, il faut que je bouge parce que je suis dans la lumière. Je ne suis pas gêné.
Allez, les photographes qui sont là sont particulièrement gratinés. Particulièrement gratinés, ils lâchent pas leurs chewing-gum, leurs lunettes noires dans les cheveux.
Et puis on est toujours dans le champ, là, faut qu'on se déplace.
Oui, on gêne, on fait des gros plans sur les femmes, des gros plans surtout sur les enfants. On vient faire son marché, quoi. Ça n'a même pas le mérite de la chasse ni du braconnage, on vient faire son marché. Il n'y a aucun échange, aucune...
Najibullah, c'est le nom de l'ancien président du temps des soviétiques.
Quels sont ceux qui ont le mieux gagné avec les journalistes ?
Ah, c'est ceux qui faisaient de la traduction. Eux, ils gagnaient pas mal.
Et ceux qui avaient des voitures ?
Qu'est-ce qu'ils sont devenus là ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ?
De conduire des motards, Khalidin, mais sérieux.
Ah, ils ont acheté d'autres voitures, ils ont fait des magasins.
Ah bon ? Ils ont fait des magasins ? Ça a favorisé le commerce ?
Oui.
Ah, c'est pour savoir où notre argent est allé.
On a investi dans l'économie locale.
100 dollars par jour, c'est beaucoup dans un pays où les revenus, c'est beaucoup dire, mais les revenus oscillent entre 1 et 2 dollars par jour. Donc il y avait une aubaine. Ce journaliste en au moins rapportait à quelques-uns, et à l'époque a rapporté à notre chauffeur qui s'appelait Joseph et qui nous a trimballé de Rojab à Odin jusqu'à Jabel Sarraj à travers les montagnes et c'est une piste absolument incroyablement difficile à travers le Badarchan, à travers le Panchir. C'était superbe, c'était fou, c'était épuisant, et on en a gardé évidemment tous, tous les trois, avec Essan et Guy, un souvenir ébloui. Essan, lui, il est afghan, donc il connaît déjà ses... Mais ça a ressuscité sa fibre de Mujahideen, et on se souvient, et vous vous souvenez peut-être d'une rencontre un peu intempestive qu'on avait faite au cours de ces tribulations.
Alors il est 6h30 du matin. On a pris la route. Le temps est magnifique. C'est vraiment le plus beau pays du monde. Là, le soleil se lève. Il n'éclaire que les crêtes. Mais ce matin, on a eu un petit incident. C'est un type qu'on a déjà croisé dans une autre halte. Et qui est un combattant. Je dis pas le mot parce que, comme il est juste devant, il risque de comprendre. C'est un type qui a un caractère, disons, assez ombrageux. Et qui, alors qu'on prenait le thé du matin, est venu nous voir et nous a expliqué qu'il fallait qu'on le prenne absolument en voiture. Lui et son chien, de gré ou de force, que ça nous plaise ou non. Alors, On lui a dit que ça ne nous plaisait pas, parce qu'on n'a pas de place dans la voiture. Et là, on a compris que le type, en fait, avait une Kalachnikov, qui ne plaisantait pas du tout. Il a été absolument impossible de le raisonner. Il nous a expliqué qu'il était un combattant,
qu'il avait versé son sang,
qu'il avait quitté une très jolie fille pour aller combattre, et que par conséquent, de gré ou de force, on devait le prendre à bord, sinon on partirait pas de là. Et on a repensé à la Kalachnikov. C'est une Kalachnikov modèle avec une baïonnette au bout. On a dit, bon, si c'est ça, on va prévenir le ministère de la Sécurité, de je ne sais pas quoi, avec notre téléphone satellite. Et alors, on nous a dit que ça ne lui disait rien du tout, ce genre de truc. Il a vertement engueulé Kif en le traitant d'étranger, de wahhabite, de taliban.
Ah oui, c'est ça. Pour lui, nous autres étrangers, on est à mettre sur le même terrain que les Pakistanais et que tous les autres qui viennent aider les talibans.
Et on a cédé. Courageusement, on a cédé. Et à l'heure qu'il est, ce type est juste devant, avec son chien, un énorme chien, un berger allemand. Il est là pendant une heure, nous a-t-il dit, jusqu'en haut du col. Il fait très très froid ce matin, très très beau. Ce qui est extraordinaire, c'est les ponts. Ce qui montre quand même que Dieu existe. Moi, jusque-là, j'en étais pas tout à fait sûr. J'avais encore des doutes, je me disais, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, et tout ça. Et là, maintenant, au moins, dans le nord de l'Afghanistan, il existe. Ailleurs, c'est moins clair, quoi. C'est moins... Mais là, c'est évident. Arriver à franchir des ponts faits de quelques branches
au-dessus de précipices avec des torrents qui coulent en dessous.
Et on arrive à les franchir. On arrive à les franchir. Alors, nous, encore une fois, c'est avec notre petite Jeep soviétique. Mais on croise d'énormes bahuts, d'énormes camions qui, visiblement, les franchissent aussi. Oh, ouf, ouf. Voilà. Il y en a pour toute la journée comme ça. Le Panchir, c'est là.
Plus que 11 heures.
Plus que 11 heures et la terre promise. Et après, on revient.
En vérité, ce combattant, comme beaucoup de ceux que nous doublions parfois sur ces pistes chaotiques du nord de l'Afghanistan, rejoignait les forces de l'Alliance du Nord. Et pourquoi ? Parce qu'il était prévu qu'après les bombardements américains, d'Enduring Freedom, eh bien, ce serait l'Alliance du Nord, les troupes de l'Alliance du Nord, qui, à pied, entrerait dans Kaboul et chasserait les talibans. C'est ça la mise en scène, si on peut dire, qui était prévue, enfin la stratégie qui était prévue, mais on le sait, avant, lorsque l'Alliance du Nord est arrivée à Kaboul, les talibans s'étaient évaporés et la grande supercherie a peut-être été considérée que c'était la chute des talibans. On sait maintenant que ça a été pour l'essentiel un repli stratégique, soit dans le sud du pays, soit au Pakistan, dans les zones tribales, où depuis, eh bien, ils se sont préparés pour le retour. Et le retour, c'est maintenant. Et ils sont beaucoup plus équipés. Ils ont une stratégie et des forces beaucoup plus importantes qu'à l'époque, puisque le commerce de l'opium, le trafic d'opium est florissant et en Afghanistan, ce qui nourrit évidemment cette rébellion. Et puis ils ont des appuis, on en parlera, du côté de leur pays refuge qui est le Pakistan. Là, on est toujours donc entre aujourd'hui et il y a 5 ans. Une autre chose aussi que je tiens à mentionner, c'est l'hélicoptère dans lequel nous étions arrivés il y a 5 ans, comme beaucoup d'autres journalistes en Afghanistan, dans le Panjshir. Il y avait 4 hélicoptères, 4 très très vieux hélicoptères qui servaient à Massoud et aux hommes de Massoud, enfin aux échanges entre le Tadjikistan et le Panjshir. Et bien dans l'année qui a suivi, c'est-à-dire au cours de l'année 2002, les 4 hélicoptères sont tombés, les 4 vieux hélicoptères sont tombés avec des passagers à bord. C'est une information qu'on nous a donnée à 2 reprises. Voilà, quelque chose qui n'est pas tout à fait indifférent. Une scène de 2000 ans dans cet Afghanistan alors en guerre.
Donc là, on est derrière ces sacs de sable et devant nous donc là-bas, c'est les lignes, c'est les premières lignes, les toutes premières lignes, et juste après, c'est les lignes talibans. C'est où Kaboul exactement? C'est au bout de ce
Kaboul,
chemin.
Kaboul, c'est derrière les montagnes là.
Les premières lignes Kaboul, de montagne.
Voilà. La première ligne de montagne, c'est Kaboul.
À gauche, là, c'est Bagram.
À gauche, ici par là, c'est Bagram.
C'est calme, hein?
Oui, ils sont en train de manger.
Donc ils ne tirent pas pendant qu'ils mangent.
Quand ils voient des gens, ils leur tirent dessus, bien sûr.
Là, ils nous voient, là, en ce moment.
Pas avec les yeux, mais ils nous voient avec leurs lunettes.
Il
y a des Japonais qui sont venus il n'y a pas longtemps ici, ils étaient en train de filmer. Ils nous ont demandé de tirer sur les talibans avec une roquette pour qu'on puisse filmer.
Et alors?
Et nous avons tiré et les talibans, ils étaient énervés, ils nous ont pris sur le feu.
Combien vous prenez pour tirer les roquettes?
Non, on n'a pas les ordres.
Oui, mais combien il faut vous donner pour pouvoir filmer un tir de roquettes?
Non, parce que je ne peux pas donner pour filmer pour faire quelque chose.
Non.
C'est pas mieux, la situation est pire même.
C'est pire? Bah, c'était la guerre. Nous, on est venus ici il y a 5 ans, c'était la guerre. Là, c'est la paix. Vous êtes en train de reconstruire et tout, c'est quand même mieux.
C'est peut-être plus la guerre, c'est peut-être la paix, mais maintenant il n'y a plus de boulot pour les gens et la situation des gens est plus difficile. Il n'y a pas de travail.
Est-ce que la situation actuelle vous inquiète?
Oui.
Il y a la guerre dans toutes les provinces d'Afghanistan et il n'y a qu'à Parwan qu'il n'y a pas la guerre.
Ici? Oui. Mais la guerre est partout, dans le sud, dans l'est. Est-ce que vous vous sentez protégé par les forces américaines, par l'OTAN?
Ah.
Ah bah, s'il n'y avait pas les forces internationales, ils revenaient tout de suite là.
Pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est une occupation. Eux, ils nous ont dit qu'ils venaient là pour nous aider. Maintenant, on va voir dans le temps ce qui se passe, quoi.
Et c'est ce qu'on verra avec nos amis afghans demain. C'était un reportage avec Guy Van Til, traduction Ehsan Meranguet, à lire Opium de guerre, opium de paix, d'Alain Labrousse aux éditions Mille et Une Nuits, ainsi qu'également celui de l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique L'IRIS. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas celui-ci. Vous pouvez également réécouter cette émission et les anciennes émissions sur le site là-bas.org, là-bas.org, je répète, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Mathias Saléon. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, montée par Raphaël Moutard, assistée de Pascal Le Pascariello et Christophe Imbert, qui attend impatiemment vos messages sur le répondeur de la Basse-Ugissou au 01 56 40 37 37.